Bonjour tous, merci d'être là ce matin et je vous propose de prier pour introduire ce culte avec notre grand patron, avec le Seigneur des Seigneurs, avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous prions. Merci Seigneur parce que nous pouvons ce matin parler de toi, parler des choses que tu as faites toi, mais aussi te louer, te dire notre reconnaissance. Merci parce que tu es parmi nous. Amen. C'est un culte particulier, c'est pas à la gloire du vin, mais on va parler de Bible. La Bible, une cave de 66 grands crus. C'est un grand cru que vous allez pouvoir déguster à la fin du culte. Donc, vous allez devoir patienter. C'est un Bourgogne de 1964. Et le spécialiste des vins anciens, c'est Philippe Rocha, pas le cuisinier de Crissier, mais son homonyme, qui est aussi mon beau-fils. C'est un grand passionné de vins anciens. Et nous allons mixer un petit peu des tuyaux sur le vin et puis des tuyaux sur la Bible. Pour le présenter comme ça. Ça peut peut-être vous choquer, mais je me suis dit, le politique, spécialement en France, mais aussi en Suisse, veut nous restreindre dans nos murs et il veut nous garder entre nos murs, ne rien faire dans l'espace public. La fête de Noël, on n'a pas eu le droit de le faire dehors, dans l'espace public, on a dû le faire sur notre terrain. En France, c'est très fort, la notion de laïcité, restez chez vous, votre foi est privée. On l'a bien assimilé, ce message, parce qu'on n'ose plus faire entrer le monde dans notre Église. Et pour moi, ce matin, je voulais aussi montrer, on voulait aussi, Philippe et moi, montrer qu'on peut mixer des choses qui viennent du dehors, comme le vin, ne pas seulement en parler. La Bible, dans la Bible, il y a à peu près une soixantaine de citations sur le vin. Alors, on parle d'une manière théorique, hein, et puis on ferme la Bible, mais on voulait un petit peu mixer, montrer que Jésus, lui, il n'avait pas de problème. Il parlait de Dieu partout où il allait, dans les champs, chez les buveurs de vin de l'époque. On le lui a d'ailleurs reproché. Et puis, Jésus, il a réussi à mixer le spirituel avec les choses de tous les jours. Et ça lui est arrivé, d'ailleurs c'est un petit peu la technique qu'on va utiliser. Je pense que quand il s'est promené dans les champs, il a vu un semeur, il a dit, regarde, je vais te raconter une histoire là. Le semeur là, regarde, ce semeur là. Eh ben, nous allons utiliser la même technique avec le vin. Nous allons faire une sorte de parabole entre les vins anciens et la Bible. Et je voudrais commencer par cette histoire de vieux, un vieux vin. Il est apprécié. Mais une vieille Bible. On dit, c'est un vieux bouquin. Qu'est-ce que ce vieux bouquin a à voir avec notre vie actuelle, moderne? Vous allez voir, je vous raconte une petite histoire après, en relation avec le CERN. Mais d'abord, je voudrais que Philippe me raconte une histoire sur des vins emmurés dans la dernière guerre mondiale.
Ça arrive de temps à autre, en fait, que, surtout en France, des gens fassent des travaux dans leur maison et tout d'un coup, en cassant un mur, ils découvrent une cave qui, en fait, avait été murée par leur grand-père ou leur arrière-grand-père à l'arrivée des Allemands pour éviter que les trésors viticoles français, en fait, tombent aux mains de l'ennemi. D'une certaine manière, on pourrait faire un parallèle avec la Bible. Peut-être que dans votre maison, vous avez une Bible vieille peut-être ou pas forcément, et puis voilà, elle est rangée peut-être dans la deuxième rangée de la bibliothèque, hein, à laquelle on n'a jamais accès, mais il y a des livres mais on les voit jamais. Et puis peut-être que tout d'un coup, un jour, vous faites du rangement et vous tombez sur cette Bible. Alors voilà, peut-être vous n'êtes pas un connaisseur, vous tombez sur des bouteilles des années 20, des années 30, et puis vous dites, qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ça? Et puis à la limite, vous en ouvrez une, vous la goûtez, et puis bon, elle vous plaît pas du tout parce que vous n'avez pas vraiment d'expérience, vous n'arrivez pas à saisir le message. Puis vous dites, bon, bah, ça vaut rien, je vais me débarrasser de ces bouteilles, et puis comme ça, je pourrai utiliser la place de la cave. Et puis peut-être qu'avec la Bible, souvent, c'est la même chose. Voilà, on tombe sur ce vieux livre qui a été écrit il y a très longtemps. On ouvre, on lit, et puis on se dit, ouais, non, mais ça, ça a aucune valeur, ça, c'est plus du tout d'actualité. Et puis on le jette ou on le remet à sa place, et puis on l'oublie. Et puis, ben en fait, c'est ça qu'on aimerait vous rendre sensible, c'est que c'est pas parce que c'est un vieux livre qui est peut-être plus d'actualité ou qui a un message qui est un petit peu difficile d'accès de premier abord qu'il faut pas s'y intéresser. Et puis on va vous donner quelques trucs pour réussir en fait à laisser ce vieux livre, comme ces vieux vins, en fait, vous laisser ces vieux livres et ce vieux livre et ces vieux vins donner leur message, donner ce qu'ils ont encore à dire malgré leur vieillesse et parfois leur manque de modernité, on pourrait dire.
Alors, justement, manque de modernité. J'ai un autre beau-fils qui a travaillé pendant plusieurs années à l'université de Berne dans la recherche pour savoir à quel moment et où surtout a débuté, où on commençait à vivre les premiers hommes. Et puis ils ont fait des recherches, ils ont au niveau génétique surtout, mais ils ont mixé la génétique, l'archéologie, l'anthropologie, la science des végétaux, la biologie, et ils ont enfourné ça dans des softs, dans des logiciels, et ils ont fait tourner des ordinateurs au CERN. Pour ceux qui connaissent la technique, c'est le Great Computation. Ils ont fait tourner, par exemple, 500 ordinateurs pendant une semaine pour les calculs, et ils sont arrivés au résultat suivant. Donc c'est un résultat qui n'est pas dicté par des chrétiens, mais c'est des scientifiques, ça a été publié, donc c'est pas du tout farfelu. Ils sont arrivés, et j'ai vu le programme en action, j'ai vu ce que ça donnait, c'est qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'il n'y a que deux endroits dans le monde actuellement. Ils n'ont pas encore abouti dans leur recherche, mais ils sont pratiquement sûrs qu'il y a deux endroits dans le monde où l'homme a pu se développer. Donc, c'est d'une part un lieu, enfin, ils sont arrivés à deux lieux, dans la Corne de l'Afrique et en Mésopotamie. C'est quand même impressionnant. Les journalistes, ils n'en parlent pas. On nous traite souvent de demeurer, et si vous allez sur YouTube, vous faites le récit de la création, nous avons enregistré avec le directeur du théâtre de la parfumerie, ici dans cette communauté, dans cette salle, le texte de la Genèse, vous allez voir les commentaires, on nous traite de... ils sont très agressifs les gens, ils nous traitent pour des demeurés, qu'on n'a rien compris, ainsi de suite, et on ne sait pas. Vous vous rendez compte, ce vieux bouquin, c'est comme ce vieux vin. Il faut apprendre à le déguster. Et vous allez voir qu'il y a des choses, il y a bien d'autres, on pourrait parler de la naissance de l'État d'Israël actuel, qui a été annoncé dans la Bible. C'est un bouquin qui est actuel, et c'est dommage qu'on n'ait pas la même approche en disant, ça je me réjouis, on va boire un Bourgogne 1964, le déguster, et puis là, quand on a un vieux bouquin avec une vieille couverture, on dit, ouais bon, c'est mal écrit, je comprends rien, ainsi de suite. Et on va un petit peu dans cette première partie du culte, puisqu'il y aura une deuxième partie où on aura un temps de louange. Il n'y aura pas de Sainte Cène aujourd'hui. Un petit peu dans cette première partie, vous aider à redécouvrir la Bible, à l'aimer. Vous donner aussi quelques techniques de méditation pour savoir comment aller plus loin. Mais, autre question que je voudrais poser à Philippe, comment un vin, un grand cru, qu'est-ce qui fait que c'est un grand cru? D'où est-ce que ça vient?
En fait, à la base, c'est un classement. Donc c'est des gens qui se sont intéressés au vin de certaines régions et puis qui ont décidé de classer, donc de sélectionner des vins qui, à leur sens, avaient une plus de valeur, plus de qualité que les autres, et ils en ont fait des grands crus. Alors après, ben les qualités, ça va dépendre du terroir, ça va dépendre du type de cépage, ça va dépendre du vigneron aussi qui fait le vin. Mais après, c'est surtout, c'est surtout des hommes qui décident qu'un vin est grand cru ou premier cru ou pas un cru du tout. Et on peut faire un parallèle avec la Bible où des gens se sont posés avec un certain nombre d'écrits qui étaient là. Et puis, avec l'aide du Saint-Esprit, ils ont dit, ce livre-là, on décide que c'est un grand cru et on va le mettre dans la cave qui s'appellera la Bible. Et puis, cet autre-là, à notre avis, c'est pas la qualité suffisante pour être un grand cru. Ça veut pas dire qu'il est pas bon, ça veut pas dire que ça sert à rien de s'y intéresser, mais ça n'a pas été considéré comme un grand cru. La différence, c'est que la Bible, elle est fixe. Et que les grands crus, parfois, dans le vin, parfois, ils peuvent être modifiés. On peut en ajouter un, en enlever un. Mais ça reste quand même des classements qui sont assez fixes. Et il y a des gens qui disent, oui, mais bon, les classements, ça vaut rien. On dit que c'est surtout pour faire monter les prix ou des choses comme ça. Mais quand même, si vous apprenez à connaître les vins, que vous vous intéressez aux vins, vous voyez quand même une différence très, très grande de qualité entre un premier cru classé à Bordeaux et puis un Bordeaux supérieur normal. Et avec la Bible, c'est la même chose. Les gens peuvent dire, oui, mais bon, c'est des gens qui ont choisi comme ça. Et puis, mais si on s'intéresse vraiment au message qui est à l'intérieur, on peut voir la différence profonde du message qui est apporté dans ces livres.
Alors, par exemple, Philippe parle de classement. Cette Bible a été sélectionné, en fait, les livres qui s'apparentent à des grands crus. Il y en a 66. Et ces livres ont été sélectionnés et fixés pratiquement vers 380 de notre ère. Donc, un petit peu plus que 3 siècles après la naissance du Christ. Donc, y compris l'Ancien Testament qui a été sélectionné par les Juifs bien auparavant. Mais notre Bible actuelle, elle a été sélectionnée au IVe siècle. Donc, ce qui est intéressant, contrairement au grand cru, un grand cru ne peut pas, même s'il est grand cru, il n'est pas toujours bon. Mais nous, on peut se fier dans une sélection qui a été faite. Et, par exemple, vers 380, on a hésité de mettre l'évangile de Jean dans cette Bible. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait un mouvement sectaire dans le début du christianisme, qui était le gnosticisme. Et puis, les gens de cette secte utilisaient beaucoup l'évangile de Jean parce qu'il y avait beaucoup de luminosité dans cet évangile, beaucoup aussi c'est un évangile qui est un petit peu hermétique, et les gnostiques ils aiment les choses hermétiques où ils peuvent construire dessus. Donc il a failli ne pas rentrer dans cette sélection. Donc ce qui est intéressant, nous pouvons faire confiance à ce texte parce qu'il a été sélectionné les yeux fermés, et il a traversé les âges, et il a été testé aussi, par exemple dans les 1950-1960, il y a eu des découvertes qui ont été faites à Qumran du côté de la mer Morte, et on a retrouvé des manuscrits qui étaient dont un des manuscrits c'était pratiquement le texte d'Ésaïe. Et lorsqu'on a comparé le texte d'Ésaïe qu'on a découvert, qui a été mis dans des jarres du temps de Christ, ou peut-être quelques années auparavant, il n'y a pratiquement pas de différence. C'est assez impressionnant de voir que ce texte s'est conservé. Donc, c'est bien, c'est super d'avoir un livre qui est moderne. Philippe de Corvey, que certains d'entre vous connaissent, il disait toujours « Mais moi, je ne me fais pas de soucis pour ce qui est écrit dans la Bible. Les scientifiques vont arriver à dire ce que la Bible dit. Mais peut-être pas maintenant, mais dans le futur. J'ai confiance. » Et nous, on essaie, lorsqu'il y a une découverte scientifique qui est faite, on essaie d'adapter notre message biblique, de dire « Ouais, il faut un petit peu tous les premiers, la Genèse, il faut essayer de l'adapter, et puis les livres de la Genèse, par exemple, c'est pas des bouquins scientifiques, c'est pas des chapitres scientifiques, c'est des chapitres beaucoup plus liés à la poésie, mais qui a un fondement, qui est inspiré. » Alors, on ne va pas allonger sur la question de l'inspiration, par exemple, parce que l'heure y tourne, parce qu'on a d'autres choses à vous dire. Et je voudrais que Philippe m'explique comment on déguste un vin. Parce que ça va nous amener sur comment on déguste la Bible. D'abord, l'autre question, comment tu prépares le vin?
Alors, il y a plusieurs techniques. Ça va être beaucoup influencé par l'âge de la bouteille. Par exemple, ben là, on a un vin qui a une quarantaine d'années, un peu plus, et qu'on va boire après le culte. Moi, je l'ai déjà ouverte. Comme ça, elle va prendre un tout petit peu d'oxygène. Et puis, le vin, en fait, qui a été enfermé pendant presque 50 ans, il va pouvoir, voilà, s'ouvrir, retrouver un petit peu. Ben, c'est comme quand vous ouvrez votre valise qui a traîné à la cave pendant des années. Ben voilà, et ben c'est un peu la même chose. Et donc il faut laisser le temps. Et ben c'est aussi à nous d'être patients, de laisser le temps au vin, voilà, de pouvoir donner tout son message, avoir les meilleures qualités. Puis après, ce qui va aussi être ce qui va beaucoup influencer la dégustation, c'est le type de verre que vous allez utiliser. Si vous buvez dans un petit verre, dans un grand verre, dans un verre large ou plutôt étroit, ça va influencer beaucoup la dégustation. Donc, il faut laisser du temps au vin pour qu'il puisse donner son message et puis le mettre dans des bonnes conditions. Donc, si vous ne respectez pas l'un ni l'autre, ben, vous pouvez avoir la meilleure bouteille du monde avec vraiment les meilleures qualités que vous puissiez trouver. Si vous la mettez dans un tout petit verre, comme les verres à vin blanc qu'on sert dans les apéritifs, votre vin, il dira rien. Si vous ouvrez la bouteille, que vous mettez le vin tout de suite dans le verre et que vous buvez tout de suite, le vin, il n'aura pas le temps de dire quelque chose. Et donc, c'est surtout une question de patience, de temps. Et puis après, ben c'est aussi pour la personne qui ouvre, qui offre le vin, c'est aussi ben une sélection. J'avais pas 15 bouteilles de ce format à vous offrir, mais quand je pars sur des plus petites bouteilles, ben voilà, je me dis mais qu'est-ce que voilà, quand c'est que je vais boire, est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va manger, qui sont les gens qui sont avec moi, est-ce que c'est des gens qui connaissent, qui connaissent pas, est-ce que c'est des gens qui préfèrent ce type de vin ou celui-ci, et puis après, ben la personne qui offre le vin, qui ouvre la bouteille. Ben, elle fait, voilà, elle sélectionne et on a toujours, moi j'ai toujours plaisir de descendre à la cave et puis de choisir la bouteille et puis de me dire, ben voilà, cette bouteille, je la sers à cette personne et c'est pas sans raison. Il y a une raison particulière.
Alors, évidemment, j'aime bien cette notion, la bouteille dégage un message, hein. Et lorsque nous lisons la Bible, ce que j'ai trouvé intéressant, la première chose, c'est que quand Philippe me parle de sa bouteille et me dit « Tiens, on va boire une bonne bouteille qui a 30-40 ans, souvent il vient à la maison lorsque je l'invite, c'est pour ça que je l'invite aussi souvent », c'est qu'il amène une bonne bouteille et puis je me réjouis d'avance. Je me dis « Ah, est-ce que lorsqu'on ouvre la Bible, on a la même attente ?» Moi, j'ai souvent de la peine de dire « Aujourd'hui, Dieu va me parler ». Il va délivrer cette Bible va me délivrer le message. Aujourd'hui, je vais recevoir quelque chose. Aujourd'hui, je vais comprendre quelque chose. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui va changer dans ma vie. Et de se réjouir avant qu'on ouvre, alors que la bouteille, il y a juste le bouchon qui est enlevé, on puisse se dire, voilà. Et l'autre chose qui m'intéresse avec la question du vin, c'est la patience et le temps. Souvent, on lit la Bible, ouais, parce qu'il faut le faire, parce que le lecteur de la Bible, de la Ligue, par exemple, dit qu'il faut lire, alors on fait 3-4, on a oublié 3-4 jours, et puis voilà, on relit les textes qu'on a oubliés, parce qu'il faut le faire, et puis parce qu'il... C'est pas faux. Mais je pense qu'il faut aussi, souvent, peut-être prendre du temps, ou mieux, prendre du temps, de le faire pas trop souvent, mais de prendre son temps, de laisser venir le texte, de se mettre en condition. Comme on met en condition une bouteille, hein, on ouvre le bouchon déjà auparavant, on peut très bien ouvrir cette Bible et puis lire un petit peu, essayer de travailler. Et puis, ce que Philippe n'a pas expliqué, lorsqu'on commence à boire le vin, on retourne, hein, souvent, on retourne dans la bouche. Ça veut dire quoi? Ça, c'est ce que j'appelle méditer, mâcher. Mâcher la parole. C'est permettre que cette parole puisse circuler en nous, pas seulement l'avaler, hein, parce que c'est souvent ceux qui ont l'habitude de travailler sur la Bible, et ils prennent le matin avant de partir, alors j'ai 10 minutes, on lit rapidement le texte et tout ça, c'est avaler le vin. Mais en réalité, oui, ça nourrit, c'est vrai, mais le message qu'il y a dans le vin, qu'il y a dans la Bible, n'arrive pas. Et on est frustré au bout d'un moment. On dit, ouais, mais ça n'apporte rien. Parce qu'on n'a pas pris le temps de mâcher, de déguster, de le laisser couler et de l'expérimenter. Alors, je vais vous parler rapidement d'une technique de méditation que nous sommes en train de mettre au point. Et on voudrait aussi vous utiliser comme cobaye. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté qui ne lisent plus la Bible, parce qu'on est une civilisation qui ne lit plus, pour beaucoup, et on est tous plus branchés sur l'audio et la vidéo, les images, et finalement, on n'est plus tellement entraîné à lire. Et on s'est même rendu compte, nous qui travaillons depuis une vingtaine d'années dans l'audio, dans l'enregistrement de textes audio, non, l'homme, l'oreille occidentale n'est pas habituée à écouter des textes profonds en audio. On écoute le blabla de la radio, des interviews, des choses comme ça, la musique, en étant dans la voiture, mais de se concentrer sur un texte, c'est très très difficile. Et puis, il y a ceux qui, les vieux habitués, qui ont le lecteur de la Ligue, ou un autre lecteur systématique, continuez, mais je voudrais vous intéresser, vous qui avez de la peine à vous intéresser à la Bible, à la méditer régulièrement, à peut-être essayer cette nouvelle technique. C'est une première mondiale pour vous aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle des arbres de méditation, enfin, ça se pose sur une carte postale. Plus tard, si vraiment le concept prend racine, nous allons le mettre sur les téléphones portables pour pouvoir travailler aussi avec des vidéos, des enregistrements de la Bible. On utilise plutôt la vidéo. Et cette carte, elle est très simple. Elle a 10 textes. On propose 10 textes, un texte tronc, donc qui va donner le thème central. Ici, par exemple, le temps du repos. C'est à utiliser pendant les vacances, par exemple, ou pour ceux qui, comme Bernard Bailly, là, qui est parti définitivement à la retraite, officiellement, officieusement peut-être pas, sûrement pas, mais c'est 10 textes à méditer. Le texte tronc parle du jour du repos, c'est le texte directeur, et puis il y a les textes branches qui parcourent soit l'Ancien Testament, soit le Nouveau Testament, sur 9 textes plutôt, et qui vont un petit peu compléter ce thème du repos à méditer. Et puis, il y a des cases derrière. Sur la case derrière, vous prenez un mot ou un thème à mâcher. Parce que souvent, lorsqu'il y a beaucoup de choses dans un texte, c'est intéressant de prendre un mot-clé, par exemple. Dans un des textes, parle du repos, de dire c'est quoi le repos. C'est ça, faire travailler, méditer. Mais vous pouvez aussi prendre un thème, vous le marquez dans votre carte, et cette carte, vous pouvez l'afficher là où vous passez très souvent, sur votre bureau, dans votre cuisine, sur votre réfrigérateur. On a mis dehors des outils, des objets, vous pouvez les placer dedans, pour toujours, lorsque vous passez devant, de reprendre ce que vous méditez dans la journée. Hein, c'est le principe de passer du temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut 20 minutes, une demi-heure ou une heure le matin, mais de passer dans la journée, vous avez, votre regard tombe dessus, vous reprenez, vous mâchez, vous priez peut-être. Vous essayez aussi de mixer ce que vous lisez à votre quotidien. Et le vin, on le boit généralement en mangeant. C'est la meilleure façon de déguster un vin. Et la meilleure façon de déguster la Bible, c'est de le mettre en contact avec ce qu'on vit. Qu'est-ce que ce texte aujourd'hui que je suis en train, ce mot-clé ou ce thème ou ce texte que je suis en train de méditer, qu'est-ce que ça a à voir avec mon quotidien? Qu'est-ce que ça va changer dans mon quotidien? Et il y a une petite case à cocher, pas pour cocher quand vous avez fini de lire le texte ou de méditer ou de regarder le texte, mais vous mettez une coche lorsque vous avez mis en pratique une partie de ce texte, lorsqu'il vous a amené à quelque chose de pratique. Vous allez peut-être voir au bout des 10 textes qu'il y a peut-être seulement une case qui a été cochée. C'est pas grave. Parce que c'est tout un travail. Comme avec le vin, comme disait Philippe, il faut avoir de la patience. Et ça va vous aider à améliorer votre travail sur votre quotidien. Parce que l'important, c'est d'aller dans le quotidien. Et donc il n'y en a plus, il y en a une 35. Ne prenez pas des cartes, il y a sur différents thèmes. On va développer d'autres thèmes. Vous pouvez aussi prier pour ce travail. Je cherche actuellement des partenaires qui ont plus d'influence que nous, puisqu'on développe ça dans le cadre de Logoscom. Donc, vous pouvez prier aussi pour ça. Mais c'est à la fois un objet ludique. Hein, on entend la culture d'aujourd'hui, une carte postale avec une jolie illustration, et puis un travail sur soi-même. Donc, il y a le logo de la FRAE, parce qu'on est en train de réfléchir pour le mettre pour vous le présenter dans le journal Vivre, on va peut-être le mettre dedans, une des cartes, c'est à l'étude. Donc, simplement,
En fait, voilà. C'est un carton découverte que tu as inventé.
Pardon ?
C'est le carton découverte biblique que tu as inventé. C'est très, très en vogue actuellement dans le vin. Des vignerons font ça ou des associations de vignerons vous proposent d'être abonnés et puis vous recevez tous les mois un carton avec 6 bouteilles que vous pouvez déguster et ben voilà, c'est un peu le même système. Vous n'allez pas forcément aimer tous les vins. Il y en a peut-être un où vous allez décider d'acheter un carton, d'autres ben vous allez juste goûter et puis ça va pas vous plaire du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi utiliser ça pour découvrir d'autres choses dont on n'a pas l'habitude. C'est vrai que si vous allez chez un caviste, ben vous allez avoir plutôt aller sur tel type de vin que vous savez que vous aimez bien, et peut-être de découvrir un vin qu'à la limite vous ne connaissez pas du tout, ben ça peut aussi être intéressant.
Alors je suis vraiment désolé parce qu'on a beaucoup plus de choses à vous dire encore. Le temps avance et je demanderai à Philippe de faire la conclusion. Et après la conclusion, parce que apparemment vous avez peut-être l'impression qu'on fait l'apologie du vin, mais on voudrait Martine va vous lire des textes qui parlent contre le vin et l'utilisation du vin. Ça donnera aussi un équilibre et c'est une manière aussi, une éducation. Je crois que le vin, il faut apprendre à s'éduquer, aussi à éduquer notre entourage, à éduquer nos enfants à boire de l'alcool. Parce que souvent on néglige ça et puis ils l'apprennent par eux-mêmes, ils l'apprennent souvent avec des copains qui les entraînent dans l'alcoolisme, ils deviennent alcooliques. Donc Martine va lire des textes des proverbes et des siracides. Les siracides n'ont pas été sélectionnés, c'est pas un premier cru, mais comme disait Philippe, c'est un deuxième cru. C'est bon, mais c'est pas dans la sélection officielle de la Bible. Donc je te laisse conclure.
Parce que, en discutant avec Henri, ce qui nous est venu à l'esprit, c'est, on parle de la Bible, et en fait, au temps de Jésus, la consommation du vin était assez particulière, parce qu'en fait, le vin servait à purifier l'eau. Donc, l'eau était la plupart du temps impropre à la consommation, et les Romains en particulier, faisaient du vin qui était des vins très lourds, très alcooliques, qui mélangeait avec l'eau, donc pas le contraire, ils ne mettaient pas de l'eau dans le vin, ils mettaient vraiment du vin dans l'eau pour simplement pouvoir boire l'eau. Et on a fait une petite extrapolation en disant, ben voilà, l'eau, on pourrait très bien dire que ben, c'est notre quotidien, c'est notre vie de tous les jours, c'est quelque chose qui est accessible facilement à tout le monde. Et puis, et qui est nécessaire à tout le monde.
Et qui n'est pas toujours bon à prendre.
Et puis qui n'est pas forcément toujours bon, là. Et, ben, si on fait l'image entre le vin et la Bible, de dire, ben voilà, mettre une goutte de vin dans notre quotidien, une goutte de Bible, et puis bien sûr, après, ben, laisser Dieu aussi agir en nous, mais avoir cette image de dire, ben voilà, le vin, c'est vraiment, était vraiment utilisé à l'époque pour purifier l'eau. Et qu'on puisse utiliser la Bible pour purifier en fait notre vie.
Alors, parce qu'on parle, c'est une image, hein. C'est Jésus qui purifie, c'est Dieu qui nous purifie de nos péchés. C'est que c'est parabole, hein. Il ne faut pas aller trop loin, mais c'est juste de dire la Bible, en la mélangeant dans notre quotidien, peut faire évoluer des situations et peut rendre potable. Nos situations. Marquil.
Alors, la Bible n'est pas naïve avec le vin. C'est vrai que Dieu nous attend au ciel avec un festin fait avec des vins vieux, etc., etc. C'est ce qui est marqué, je crois, dans Ésaïe. Mais elle n'est pas naïve avec le vin. Elle met en garde nous. Je vais vous lire trois textes dans les Proverbes, donc grand choix, premier cru, et trois textes dans les Siracides, que je vous recommande parce que c'est un livre mais qui est bourré de sagesse et bourré d'humour. Le vin rend l'homme arrogant. Les liqueurs fortes l'incitent au tapage. Qui en boit trop est dépourvu de bon sens. Ça a le mérite d'être clair. Toi, mon fils, alors mes fils sont pas là, hein, mais bon, il y a les fils des autres. Toi, mon fils, écoute-moi et tu deviendras un homme sensé, tu iras droit ton chemin. Ne fréquente pas les gens qui s'enivrent de vin et s'empiffrent de viande, car les buveurs et les gloutons seront réduits à la misère. À force d'indolence, ils n'auront plus que des haillons à se mettre. Qui vit dans la misère et les regrets, qui se dispute sans cesse et se plaint sans arrêt, qui reçoit des coups sans raison, qui a la vue trouble. C'est l'homme qui s'attarde à boire du vin et essaye sans cesse de nouveaux mélanges. Ne sois pas tenté par la belle couleur du vin qui pétille dans la coupe. Il coulera agréablement dans ton gosier, mais finalement, tu auras l'impression d'avoir été mordu par un serpent, empoisonné par un reptile venimeux. Tes yeux auront des visions, ton esprit, tes paroles deviendront confus. Tu te croiras en pleine mer, balancé au sommet du mât d'un navire. Tu diras, j'ai dû être blessé, battu, sans avoir mal, sans me rendre compte. Oh, pourvu que je me réveille bientôt pour redemander à boire.
C'est la description de la cuite.
Moi, je trouve que la Bible a pas mal d'humour quand même, non? Ça, c'était les textes officiels. Maintenant, je passe aux textes officieux.
Deuxième cru.
Mais très bon, très bon. Ça, c'est pas seulement pour les fils. Évite de t'asseoir près d'une femme mariée et de t'attabler avec elle pour boire. De peur de tomber amoureux d'elle et dans ta passion de glisser sur la pente fatale. Un travailleur qui boit ne s'enrichira pas. Celui qui méprise la modération descend la pente lentement, mais sûrement. Ça donnait au vin courir les femmes, égare même les gens intelligents. Et le dernier qui est un mix moitié-moitié. J'ose pas dire, mais les vaudois disent moitié-moitié plus un coup de blanc, mais ça c'est autre chose. Avec le vin... Ne joue pas au plus fort, car il a fait le malheur de beaucoup de gens. La chaleur du four révèle la qualité du travail du forgeron. Le vin a le même rôle. Il fait apparaître le vrai caractère des orgueilleux qui se battent. Pour les humains, le vin est symbole de vie, à condition d'en boire avec modération. Quelle vie mène-t-on si on manque de vin ? Au commencement du monde, Dieu l'a créé pour réjouir les humains. S'il est bu quand il faut et pas plus qu'il ne faut, le vin produit la bonne humeur, la joie des cœurs. Mais bu avec excès, il rend l'humeur méchante. Il excite les gens, les fait tituber. L'ivresse aggrave la fureur de l'homme sans bon sens jusqu'à faire scandale. Elle entame sa force, appelle les coups. Quand tu assistes à un banquet où l'on boit du bon vin, ne fais pas de reproches à ton voisin, ne l'humilie pas s'il est gai. Ne dis rien de blessant et ne l'accable pas en lui réclamant l'argent qu'il te doit. Au commencement du monde, Dieu l'a créé pour réjouir les humains, s'il est bu quand il faut et pas plus qu'il ne faut. Bonne dégustation.
Merci.
C'est vrai que les petites paroles qui nous restent dans le cœur, ces petits versets qu'on apprend par cœur, ça nous laisse quand même quelque chose. De temps en temps, tous ces versets qu'on avait appris à l'école du dimanche, dans nos camps à Vennes, au catéchisme, ça me laissait une impression de ressasser, de vieux refrains, de « oh non, pas encore ce verset-là, oh non, pas encore cette histoire-là, oh non ». Et finalement, c'est intéressant de voir que c'est comme dans la Bible. Quand on s'approprie une parole du Seigneur Jésus, avec le temps qui passe, avec nos expériences de vie, avec ce qui nous est donné de vivre, avec ce qui nous est donné de nous réjouir ou de nous souffrir, ou de souffrir, ça prend tout à coup un relief complètement différent. Les disciples de Jésus aussi, ils ont dit « mais !» C'est bien sûr, c'est pour ça qu'il disait « maintenant je comprends ». Et je peux vous dire qu'il y a certaines paroles dans nos grands classiques évangéliques, quand le temps de la souffrance vient, quand le temps de l'épreuve arrive, quel bien ça fait de se souvenir que c'est une vraie promesse, et puis que c'est un grand cru, et puis qu'il a été conservé là pour nous. Et le Seigneur était ici, parmi nous, il a vécu comme un homme, il nous connaît jusqu'au fond de nos tripes, jusqu'au fond de notre âme, notre esprit, c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a donné les paroles qu'il nous faut. Il n'y a pas longtemps, avec le groupe de jeunes, on a relu le psaume 23, « L'Éternel, mon berger, je manquerai de rien ». Ça, c'était une chanson que je chantais avec ma maman et puis mon grand frère assis au bord du lit avant de se coucher le soir. On était en pyjama, les dents brossées. Et puis, on lisait un petit bout de la Bible, on chantait une chanson, on chantait aussi « L'Éternel est mon berger ». Et puis, quand ma grand-maman maternelle nous a quittés, j'avais 10 ans, son verset qui l'accompagnait toute sa vie, c'était ça, son verset qui l'accompagnait quand elle est rentrée chez le Seigneur, c'était ça, l'Éternel est mon berger. Puis là, j'ai commencé à me dire, ah tiens, ouais, voilà ce que ça veut dire. Et je crois que oui, il faut que, comme nous y ont exhorté Philippe et Henri, que je crois qu'il faut qu'on se repasse les paroles du Seigneur dans le cœur. Et puis qu'on se dise, mais tiens, oui, dans ma vie, ça veut dire quoi? Ça m'amène où? C'est pas tous les jours facile, mais les paroles du Seigneur sont là pour nous accompagner. Au camp de Vennes, sur la grande salle, c'était écrit, psaume 119, verset 105. Vous connaissez tous par cœur? Eleonore, psaume 119, verset 105. Le leitmotiv de Joanne, il sait, lui. Leitmotiv de la Ligue pour la lecture de la Bible. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et puis, quand on se sent désarmé, et c'est bizarre, hein, je ne vais pas vous parler d'enterrement pendant toute la louange, mais quand j'ai perdu papa, il y a un an et demi, ben ça c'était son verset qui l'a accompagné. Et puis quand je vois papa qui nous quitte, et puis papa qui va vers le Seigneur, de relire « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier », ça veut dire quelque chose de complètement différent. Parce que on se retrouve devant d'un côté ce qui pourrait nous sembler un grand vide, et puis de l'autre côté, ça nous rappelle que les promesses de la Bible, elles sont pas là seulement pour « Le Seigneur a des plans pour toi dans ta vie, il va faire des super choses avec toi ». Moi, ça me plaisait beaucoup quand j'étais jeune d'entendre ça. Ça me plaît toujours. Ça me plaît encore plus d'entendre ces promesses tellement profondes quand on est dans la difficulté, quand on est dans la souffrance. Et puis de se dire que ça, c'est béton. Ça, c'est pas quelque chose qui va nous laisser tomber. Seigneur Jésus, c'est ce que nous voulons, c'est recevoir ta vie, c'est offrir nos vies. Merci parce qu'aujourd'hui encore tu parles, ta parole est bien vivante, tu parles à nos cœurs, tu nous aimes, tu nous appelles et nous voulons te répondre. Oui Seigneur Jésus, nous voulons plus de toi. Oui Seigneur Jésus, nous voulons entendre ta parole. Oui Seigneur Jésus, nous aimerions que ta parole nous touche nos cœurs. Béni sois-tu pour ce trésor inestimable que tu nous as laissé.